Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue autour du barbecue vélo pour un nouveau numéro cycliste, pour une nouvelle régalade, bien évidemment, aujourd'hui, un barbecue arc-en-ciel, bien évidemment, avec la victoire de Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège, sa deuxième doyenne consécutive, Remco, avec ce maillot arc-en-ciel, il l'a bien fait briller et il nous a encore régalé, bah oui, une accélération dans la redoute, comme attendu en l'absence à ce moment-là de Tadej Pogacar, puisque oui, on a été privé un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé sur Paris-Roubaix quand Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel n'avaient pas pu s'affronter faute d'une crevaison au sortir du carrefour de l'arbre du Belge. Et bien là, c'est le Slovène qui a chuté à 80 km à peu près de l'arrivée. Fracture du poignet, deux fractures du poignet. On vous donnera bien évidemment des nouvelles de Tadej Pogacar en vue également du Tour de France. Et puis on fera un petit dessert avec le Tour de Romandie qui s'était lancé aujourd'hui, puisqu'on enregistre l'émission le mardi au lieu du lundi et sortira donc le mercredi matin, et ça sera donc le tour de la première étape, puisque notre ami qui forme ce barbecue, ce duo sur le barbecue aujourd'hui, notre Charlie 91 est bien avec nous, et il me disait il y a quelques instants, oui c'est rare qu'on ait des prologues, et ben oui on en a eu un hier donc, puisque le barbecue sort ce mercredi au Tour de Romandie. Salut mon Charlie.
Salut, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, les prologues sont rares, mais on a quand même ce qu'il faut pour nous régaler autour du barbecue aujourd'hui.
Absolument, et puis avec cette victoire de Tcherny, de Quickstep, bien sûr, de Soudal Quickstep, qui a remporté ce prologue devant Tobias Foss. On fera évidemment tout un état des lieux avant cette suite du Tour de Romandie. Mais d'abord, comment ne pas s'arrêter sur la doyenne, Charlie ? Avec la victoire de Remco Evenepoel, on va le débriefer longuement, ce Liège-Bastogne-Liège. Mais j'ai envie de te donner la parole pour l'apéritif, de te demander comment tu as vécu ce Liège-Bastogne-Liège et qu'est-ce que tu veux dire en premier lieu là-dessus.
Ah, quand même, c'est une victoire de légende. Hein. C'est ce départ de Pogacar était attendu dans la redoute et finalement, il s'est extrait. C'était vraiment, vraiment beau à voir cette victoire. Ça m'a rappelé Andy Schleck il y a quelques années. Victoire vraiment valeureuse au long cours, même s'il avait déjà remporté l'an dernier, puis une victoire avec le maillot de champion du monde, c'est forcément mythique. Ce n'était pas arrivé depuis très très longtemps, donc ça a marqué les esprits aussi pour cette rareté. C'est très rare de remporter la doyenne avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules.
Ouais, c'est ça. Alors, je me rappelle plus bien de l'histoire et si Merckx l'a fait, Eddy Merckx l'a fait. Ricky Von Lunk l'a fait aussi. Après, il me semble qu'il en reste un ou deux qui ont réussi l'exploit.
Oui, l'un des derniers, c'est Moreno Argentine, qui était un coureur de classique italien émérite dans les années 80, qui l'a remporté deux fois aussi et une fois avec le maillot de champion du monde. Donc, c'est assez rare et c'était magnifique de le voir triompher avec le maillot arc-en-ciel à l'arrivée.
Et puis c'est des victoires qui, sans cesse, on en parle toutes les semaines pour Tadej Pogacar, mais qui nous rapprochent encore plus de la comparaison entre Eddy Merckx et les nouveaux cadors du nouvel âge d'or du cyclisme. Là, qu'est-ce que tu en penses de cette expression, mon Charlie, de nouvel âge d'or? C'est une expression qu'on lit, qu'on entend beaucoup ces derniers jours-là, avec Pogacar, avec Van Aert, avec Van Der Poel, avec Evenepoel. Est-ce que tu penses qu'on est vraiment rentré dans un âge extraordinaire encore une fois, ou c'est peut-être encore un petit peu trop tôt pour le dire, ou là quand même on en a une belle confirmation quand même là.
On n'a pas encore tout le recul, mais il est vrai que quand on regarde les dernières arrivées des monuments, notamment des grands coureurs que t'as cités, il y a des écarts qui sont très importants au niveau chronométrique quoi. On dépasse la minute. Là il y a plus d'une minute. C'était pas arrivé depuis Schleck depuis 10-15 ans, donc c'est énorme les différences qu'il y a entre cette classe de coureurs et puis on va dire presque le deuxième niveau de coureurs qui sont assez proches, la quinzaine de coureurs qui font la bataille derrière. Donc oui, ils sont exceptionnels dans le peloton, ils le savent, hein, quand ils sont au départ, c'est pas pour faire forcément la victoire. Donc forcément, il y a des comparaisons avec ces âges d'or précédentes des grands coureurs, si on rejoint au palmarès des Hinault, des Merckx. C'est assez rare, c'est un tous les 30 ans, tous les 40 ans. Et là, il y en a plusieurs dans le même temps, hein, des joyaux. Donc, on peut rentrer dans cet âge d'or grâce à ces différents joyaux qui s'expriment parfaitement sur des courses très difficiles comme les classiques.
Ouais, et puis, cet âge d'or, ce que tu dis bien, le fait que voilà, on court un petit peu pour faire deuxième, on en parle souvent, puis on va en reparler, enfin on en parle souvent depuis quelques temps seulement, mais ça montre bien encore une fois cette domination de Tadej Pogacar, de Remco Evenepoel pardon, que effectivement il y a plus beaucoup de monde pour rivaliser, et notamment quand Tadej Pogacar n'est plus en piste. Il faut aussi souligner, on le soulignera bien sûr, parce qu'on parle évidemment de la victoire de Remco qui est exceptionnel, encore une fois, voilà, même si on en a l'habitude maintenant, faut pas minimiser ce genre de succès, mais il y a aussi tout un travail de la formation Soudal Quickstep qui, te connaissant bien sûr mon cher Charlie, tu ne manqueras pas de souligner, avec notamment à Ian Van Wilder qui a été assez exceptionnel aussi sur la fin de sur voilà, il était dernier coéquipier à bout de souffle de d'Evenepoel, et puis tout un travail aussi en amont de Julien aussi, on va en parler. Juste Baptiste, est-ce que voilà, pour ceux qui n'étaient pas sur les routes de Liège-Bastogne-Liège dimanche, ceux qui n'étaient pas non plus devant leur télé, sur leur canapé, est-ce qu'on peut se remettre, voilà, dimanche, on repart dans le temps, le débrief de Charlie, le film de la course, Liège-Bastogne-Liège.
Liège-Bastogne-Liège, une course qui est partie sous le soleil de Liège, pas de température très basse, température un peu fraîche, mais une pluie qui s'est invitée sur le parcours des coureurs pendant de très grande partie de l'épreuve, une échappée aussi est revenu, c'est le scénario un peu classique qui nous a manqué dans certains grands autres monuments précédemment. Échappé de 11 coureurs avec notamment Velasco, Jelens Vandenborre, Mathis Lebert, Lars Vandenberg, Paul Ursolin, entre autres. Échappé qui finalement a compté 3-4 minutes d'avance. Et puis quand on a fait le retour Liège, donc Bastogne, on retourne vers Liège, la course s'est animée brutalement. Alors évidemment, tu l'as dit, Pogacar n'a pas pu être là pour le duel, il a chuté, et après, juste après que finalement cet événement intervienne, il y a eu les mouvements de course un peu entre les favoris, avec notamment des premiers favoris qui ont décramponné, comme Godu à 99 km de l'arrivée, puis Tratnik a mis en route et s'est mis à reprendre un peu un à un tous les échappés pendant une vingtaine de kilomètres. Il est revenu jusqu'à Velasco. Et il a quand même la pression, Tratnik, parce qu'il est revenu sur le groupe de tête, mais il avait derrière lui la Quick-Step qui était en feu avec Seri, Schmidt, Alaphilippe, Vervac, qui ont imprimé un rythme dément sur la course, incroyable, en épuisant tous les outsiders, les Mas, les Guita, les Cosnefroy, les Lutsenko, ont lâché par l'arrière. Et voilà, il restait vraiment plus beaucoup de coureurs pour à l'approche de la redoute, et Van Wilder a fait une montée incroyable pour propulser son leader Remco Evenepoel, et il a attaqué une première fois. Il n'a eu qu'il me semble que le leader d'Ineos, dont le nom m'échappe évidemment, qui est Pidcock, Pidcock qui s'est accroché, comme il avait d'ailleurs pu le faire avec Pogacar dans l'Amstel, et finalement au deuxième attaque de Remco, même presque sans vouloir attaquer, il le lâche, Pidcock, Remco Evenepoel part vers la victoire, et c'est vrai que l'enchaînement
parce que c'est vrai que Pidcock a profité de ses qualités de descendeur pour revenir, mais après c'était dans la côte dont le nom de m'échappe, je crois que c'est la côte de Beauregard.
C'est possible. Pas sûr, il y avait une Charlie. Côte non répertoriée. C'est Cournemont. Je sais plus si le exactement. Village, quand elle n'était pas répertoriée, mais juste après la côte de la redoute. Il y a un petit changement de parcours. Ils ont tourné pour reprendre une bosse non répertoriée, puis de reprendre la côte des Forges, me semble-t-il.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Et du reste, là, Remco, il lui restait 30 km et s'étant débarrassé de Pidcock, il a fait. Il a fait le show, il a pu profiter puisqu'il termine avec plus d'une minute d'avance sur le deuxième et sur le troisième. Donc vraiment une épreuve magistrale. On attendait l'attaque, on attendait le mouvement décisif et on n'a pas été déçu. Il a attendu le bon moment, il ne s'est pas trop découvert avant et il a bien tenu pour remporter cette victoire et savourer.
Ouais, il a 1 minute 06 au final d'avance sur Tom Pidcock. Et pareil sur Santiago Buitrago, puisqu'on va y revenir. Ces deux-là se sont disputés la deuxième et la troisième place au sprint. Benili, On va pas tuer le suspense, on va en parler encore une fois, mais avait lancé juste avant, parce que voilà, il disait Benini, je crois que c'était dans l'équipe, il y a une petite interview sympathique dans l'équipe où il disait je suis nul au sprint, donc il a tenté sa chance et voilà, bon, ça a pas payé, mais voilà. Et puis oui, effectivement, aussi une 0-6, ça aurait pu être plus parce qu'il a profité avec le public belge, hein, dans la dernière ligne droite, Remco, qui a dit au public de Liège, vous ne faites pas assez de bruit, faites plus de bruit, là, fait lever ses mains, voilà, mis ses mains sur les oreilles, et puis fait le signe 2 avec ses doigts pour dire, bah oui, c'est ma deuxième victoire consécutive sur Liège-Bastogne-Liège. Voilà Monsieur Remco Evenepoel qui s'impose. Après mon cher Charlie, pour évoquer, pour finir ce film un petit peu de la course, il y a eu effectivement du coup ce trio qui s'est formé avec Benelli, Santiago Buitrago et Tom Pidcock, hein, qui se sont joués ces troisième, cette deuxième, cette troisième et cette donc quatrième place qui s'est pas jouée finalement. Personne n'en voulait de cette quatrième place.
Oui, absolument. C'est vrai que Buitrago, on l'avait pas trop vu. D'ailleurs, on n'était pas sûr que ce soit lui, puisque c'est pas un coureur dont on avait l'habitude de voir dans les classiques. Là, il s'est vraiment, vraiment révélé. Donc, c'était sympa aussi de voir un peu une nouvelle tête. Certes, Bellini, on l'a bien vu, et Pidcock, on l'a bien vu aussi. Mais ça consacre aussi des grimpeurs, quoi. Enfin, des coureurs valeureux et résistants, et plutôt des profils. Plus léger qu'aux Flandriennes dans ses Ardennaises, quoi.
Il était même, c'était le plus fort, Benelli dans la Rochefoucauld, hein. C'est lui qui est parti, suivi par Buitrago, et puis Pidcock aussi les a rejoints à 10 km du terme, mais c'était vraiment les deux plus forts. Et Buitrago, effectivement, on va le présenter un petit peu plus, Santiago Buitrago, le Colombien, 23 ans, et c'est d'ailleurs marrant, et c'est justement une question que je te poserai tout à l'heure. Les trois coureurs qui composent ce podium ont 23 ans, les trois. Que ce soit Remco Evenepoel, Tom Pidcock ou Santiago Buitrago, ça dit peut-être quelque chose aussi sur cette jeunesse triomphante et entre guillemets un peu moins de place, de moins en moins de place pour les vieux briscards, on va dire, dans ces courses-là, qui favorisent effectivement, comme tu le dis si bien à chaque fois, Charlie, les courses d'usure, les nouveaux types de monuments et de classiques en ce moment, des courses très très difficiles, et il faut du punch, il faut de l'énergie vraiment pour arriver à suivre. Voilà donc comment ça s'est terminé, l'affaire Charlie. Bon, on va d'abord parler du vainqueur, Remco. C'est vrai que moi, ce qui me marque, alors évidemment, il y a l'histoire, le fait que voilà, c'est sa deuxième victoire consécutive sur Liège-Bastogne-Liège, qu'il rentre un peu plus dans l'histoire. Qu'il, malgré l'absence et la chute de Tadej Pogacar dans le final, eh bien, il est parti tout seul, quoi, encore une fois, démonstration. Alors, il nous impressionne de tout ça, évidemment, mais aussi ce coup de pédale, Charlie, qui m'a impressionné, notamment dans la redoute, et puis après aussi dans la côte non répertoriée dans laquelle il a définitivement assommé la course, il a laissé Pidcock de marbre derrière, il n'a pas eu besoin de s'asseoir, enfin de se mettre en danseuse. Et dans la deuxième côte où il a attaqué, il les a tous lâchés. Il a juste tourné un petit peu sa tête, rien de plus. Il a vite retourné ensuite pour attaquer. Moi, c'est vraiment cette efficacité dans le coup de pédale qui m'a impressionné. Est-ce que tu partages mon avis, Charlie?
Ah oui, je le partage. C'est vrai qu'il a été vraiment très très fort au moment les plus difficiles de la course. Je pense qu'il a aussi bénéficié d'une course encore une fois très dure, enfin un rythme effréné. Hein. Enfin, son équipe a vraiment été magistrale pour le porter. Et je dirais pas qu'il calcule un peu plus, mais disons que il est un peu plus fin dans sa technique de course. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on le voit à Remco. Depuis les classes juniors où il gagnait avec beaucoup beaucoup d'avance sur ses poursuivants, en comptant que sur lui-même, là il a joué vraiment le jeu des clips à plein pour pouvoir se dégager au moment le plus favorable pour lui, sans prendre trop de risques et néanmoins en gagnant avec une marge favorable. Donc vraiment, c'est vrai qu'il a été très serein. J'ai trouvé toute la journée, c'est vraiment comporté en patron. On le voyait bien qu'il donnait des consignes à ses équipiers, qu'il leur parlait, qu'en même temps, il était à l'oreillette. Enfin, il était très, très en contrôle et très sûr de lui. Et ça a vraiment transparu pendant toute la course. Il était vraiment, vraiment le leader, le patron de ce Liège-Bastogne-Liège. Et il a imprimé de sa marque le déroulement de la preuve et de son final. Donc vraiment, c'est quelque part le calme. Il s'est pas énervé à vouloir partir trop tôt. Il était vraiment en confiance, et effectivement, quand il a enclenché, comme tu l'as dit, il était hyper beau à voir.
Et c'est vrai que ce que tu dis, il y a quelques années, il avait cette image je dis pas que c'était évidemment que lié à ça, parce que bien sûr qu'il a joué de malchance quand, dans le Tour de Lombardie, au Covid 2020, il avait lourdement chuté dans un ravin, mais c'est vrai qu'il faisait plus chien foufou, des fois qu'il s'agaçait en course. Là, c'est vraiment ça, hein, Charlie, on retrouve un Evenepoel plus serein, plus concentré, peut-être, du coup, l'un va avec l'autre, et conjugué évidemment à ses qualités extraordinaires, ça fait la différence.
Oui, ça fait la différence, et puis c'est vrai que ça fait une année de plus d'expérience au plus haut niveau, pour jouer la gagne dans les pelotons, et ça compte. Faut pas oublier que Remco, certes, il a brillé dans les rangs juniors, mais il a été longtemps footballeur, il a dû acquérir quelque part la culture cycliste. Et puis aussi, c'est ces coureurs qui passent de la case junior à la case élite, et sans avoir forcément à se roder sur des courses peut-être moins brillantes, mais qui permettent justement d'aller frotter, d'apprendre l'exigence d'avoir beaucoup, beaucoup d'adversaires de très haute qualité. C'est pas de rouler dans un peloton, on parle pas de ça, hein. Ça, c'est une technique en soi, mais de vraiment devoir jouer la gagne et sa place petit à petit. Donc il est arrivé chez les grands quelque part sans avoir eu tout son bagage qu'il a dû acquérir, hein. D'ailleurs, il l'a dit qu'il avait fait des progrès depuis qu'il était chez les professionnels sur certains points. Et je pense que là, il est sûr de lui, sûr de sa force. Il a une équipe qui l'entoure, qui se renforce, qui a vraiment été à 100% derrière lui. Et là, tout est réuni pour qu'il puisse briller et être dans des attaques plus chirurgicales, un peu comme Van Der Poel pour Alpecin, qui est porté par Alpecin, mais qui attaque vraiment au bon moment. C'est vraiment ces sentiments-là.
C'est vrai qu'on a un peu le même esprit, le même type d'équipe, la même façon de fonctionner.
Oui, effectivement, on ne peut pas dire que ce soit que sur un exploit individuel. Dans les cas de Van Der Poel, de Pogacar aussi et de Remco, c'est parce qu'ils ont aussi des équipes qui sont fabuleuses, qu'ils peuvent se permettre ce type de numéro. Il serait dans une équipe seule avec des faits de course et ce serait un peu moins simple pour faire ces courses hyper agressives, hyper dures. Plus c'est difficile et plus ils sont meilleurs, ces trois-là. Et ça a été le cas pour Remco. Si la course avait été moins enlevée, un peu plus tactique, c'est plus la même. Mais comme ils ont les meilleurs coureurs, les meilleurs équipiers, ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent et saurer le peloton et ce qui s'est passé pour la plupart des monuments cette année.
C'est vrai qu'ils ont impressionné vraiment les Soudal Quickstep et comme tu dis, ils ont eu ce côté lessiveuse essoreuse machine et qui a un petit peu dégoûté tout le monde, conjugué à la force de frappe de Remco et savoir que comme à l'image de Pogacar, il est attendu dans un mont, il est attendu dans une côte, il va attaquer dans cette côte et il va gagner. Il va conjuguer un petit peu entre guillemets à cette attente, à part attaquer de loin, il y a quasiment rien à faire, à part espérer un très gros coup physique et arriver à suivre dans un bon moment le grand leader et la grande force qui est ces hommes-là, ces surhumains comme les Remco Evenepoel. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire de plus pour les adversaires avec la course parfaite. C'est l'adjectif que j'avais noté en préparant le barbecue, en mettant les couverts. Je me suis dit, course parfaite, finalement, des Soudal Quickstep. Alors, tu vas me dire, jamais de perfection, mais on s'en rapproche un peu, non?
Si, parce qu'en fait, ils ont vraiment été... ils n'ont pas laissé trop de champ à l'échappée, qui était pourtant composé de 11 coureurs. Donc, 11 coureurs qui se dégagent, qui se sont relayés quand même assez longtemps. Ils n'ont jamais réussi à prendre beaucoup de champ. Ils ont maîtrisé Tratnik aussi, qui était parti dans un contre où Madouas aussi était sorti pendant un temps. Et bah, Tratnik, c'était un peu une course perdue, un peu seul. S'il avait été relayé par deux ou trois autres costauds, ça aurait été différent. Mais tout seul, c'était un peu en pure perte, même si c'est lui qui a lancé les derniers mouvements. Donc, ils ont vraiment été très, très attentifs, en fait. Hein. S'ils avaient vu trois coureurs partir avec Tratnik, je pense qu'ils auraient eu la même attitude de pas les laisser passer. Il n'y avait pas beaucoup d'options en fait pour les outsiders dans la roue de Remco. La course était au pied de la route, était un peu joué. On savait très bien qu'il allait pouvoir se dégager sur ses qualités, même s'il y avait une interrogation parce que c'est vrai qu'il revenait de stage en fait, comme il le fait pour la préparation des grands tours aujourd'hui. Donc il y avait une petite interrogation par rapport à ça. On aurait pu avoir une forme de bluff et ça n'a pas été le cas. Ils étaient vraiment sûrs de leur force. Il n'y avait pas grand chose à faire malheureusement pour les adversaires quand la machine s'est mise en route.
Ils ont assumé le poids de la course.
Ouais, ils ont assumé le poids de la course. Effectivement, tous à leur niveau, Seri, Schmidt, Alaphilippe, Vervac, Van Wilder. Enfin, il y a pas mal de ces coureurs qui pourraient être des leaders d'ailleurs dans d'autres équipes. Hein. Alaphilippe, c'est parce qu'il a une petite panne de jambes qui ne pourrait pas prétendre à un rôle protégé. Vervac, il a été très bon à la Flèche Wallonne. Van Wilder, il a été monstrueux dans l'approche du final. Donc, c'était du fort et du costaud.
Ouais. Voilà pour les Soudal Quickstep qui ont appuyé effectivement et permis aussi cette victoire de Remco Evenepoel, même si évidemment il a fait son travail, et quel travail extraordinaire en allant chercher un deuxième Liège-Bastogne-Liège. Il y a un coureur, on a toujours une petite surprise ces derniers temps notamment. Et là, il va prendre la troisième position. C'est un Colombien. Il a 23 ans. Bah oui, parce qu'ils ont tous 23 ans sur ce podium de la doyenne 2023. Mais un Colombien briller sur des monuments, on n'en voit pas si souvent. Donc, Santiago Buitrago de l'équipe Bahreïn. Avant de le présenter, ce Buitrago, pour ceux qui ne le connaisseraient pas forcément, et il peut y en avoir, évidemment. Quelle impression il t'a fait, parce qu'il a réussi vraiment à suivre Ben Haley quand il est parti et ensuite à collaborer jusqu'au bout et au sprint à livrer. Alors Pidcock a été le plus fort au final, mais j'ai trouvé quand même bon sur le sprint. J'ai trouvé avec une bonne pointe de vitesse et franchement il nous a fait très belle impression.
Ouais, c'est clair, Buitrago, il a vraiment été lui, il a fait la course parfaite pour être sur le podium. Il a peut-être pas mené les plus grands mouvements de course. Tu as parlé de Ben Haley qui est incroyable, avec une énergie vraiment très, 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 très belle à voir dans les côtes, mais qui s'est un peu découvert et qui donne tout avant. Et Buitrago, il a suivi les mouvements. Il fallait quand même réussir à accrocher ses wagons. Donc, il a été assez fin tactiquement pour pouvoir se placer et se dégager. Et pouvoir mener ce sprint hein, pour la deuxième place. Donc, effectivement, c'était c'est un coureur qui montre qu'il a de la finesse tactique. On parlait des Colombiens qui auparavant étaient pas du tout sur les classiques, tu l'as dit. Là, c'est fini quoi. Il est dans une grande équipe. Il s'est déjà illustré par ailleurs dans des courses par étapes. Il a acquis en fait une culture cycliste dans des classiques, au moins les Ardennaises. Et du coup, c'est un excellent grimpeur. On ne peut pas être sur le podium de la doyenne sans être un excellent coureur, dans les montées. Donc, ça a vraiment été, ouais, je pense, une révélation, en tout cas, auprès du grand public, comme s'il a déjà remporté un succès au Giro.
Ouais. C'est ça, en 2022. Une étape.
Voilà, exactement. Il est issu d'une province, la Boyaca, où il y a eu quand même pas mal de coureurs colombiens qui, par le passé, se sont passés par les rangs pro. Et comme tu l'as dit, voilà, 23 ans, bah, c'est vrai que maintenant les coureurs passent, ça arrive à se révéler assez vite au plus haut niveau. Et lui, ça fait déjà deux ou trois saisons qu'il a des résultats quand même intéressants. Donc
retenez bien ce nom, Santiago Buitrago. Et cette saison, tu disais que voilà, il avait eu des résultats très intéressants. Très gros début de saison, 8e du Tour des Alpes, 3e sur le podium du Tour d'Andalousie. Et puis effectivement, tu parlais de sa victoire d'étape sur le Giro en 2022, l'année passée. Il avait remporté la 17e étape en solitaire et en montagne. Et il a d'ailleurs fait un très très bon Giro parce que 2 jours avant, il avait été juste derrière un local de l'étape, Giulio Ciccone, l'Italien. C'était également évidemment sur son terrain préféré à la montagne. Et puis en général, la Bahreïn avait été meilleure équipe victorieuse du classement par équipe sur ce Giro. Il avait toute sa place dans ce succès. Santiago Buitrago, parce qu'il avait pris au final la 12e place du général. Et Mikel Landa, rappelez-vous, cette année-là, avait fini sur le podium 3e et Peyo Bilbao 5e. Donc franchement, il a fait déjà un sacré bout de chemin et on va le revoir forcément, Buitrago.
On va le revoir. Ce sera intéressant de savoir justement sur quelle course il sera aligné cette année par la suite. J'imagine qu'il va faire des grands tours vu son profil
Peut-être
très à
va-t-il
l'aise
faire le
en.
Giro? On ne
Ah,
sait pas du
peut-être,
tout.
je sais pas, parce que Bahreïn, c'est vrai qu'ils sont très très bien fournis hein, pour mener des coureurs des courses par étapes. Donc, il pourrait avoir sa place sur le tour, hein, franchement,
Ah
vu
oui,
ses faits
clairement.
d'armes. Il
Clairement.
pourrait avoir sa place sur le tour largement. Le Tour des Alpes était très relevé cette année et il a quand même réussi
Ah oui.
à être dans la course, à être présent parmi les meilleurs. Donc, il aurait sa place sur un grand tour facilement.
8e du Tour des Alpes, effectivement. C'est vrai que ça fait plaisir, au-delà de ça, effectivement, de voir, on en parle souvent aussi. Voilà, ces derniers temps, de voir des mastodontes, des classements généraux venir s'éclater sur le classique, sur les monuments. Bah là, c'est sympa aussi de voir des grimpeurs tout simplement venir aussi sur des terrains qui effectivement sont également propices à leur qualité. Comme tu l'as dit, on peut pas gagner les Bastogne-Liège sans savoir un petit peu se débrouiller à monter. Mais quand même, on voyait effectivement très peu de coureurs sud-américains. Et ça amène aussi une certaine diversité, une certaine aussi façon de courir, un certain style, et c'est assez sympa à voir.
Ouais, ça c'est sympa à voir, et puis ça montre que ces jeunes coureurs qui n'ont plus peur d'aller frotter longtemps. On a vu des Colombiens à une époque que tu n'as peut-être pas connu, mais tu as entendu où les Colombiens chutaient parce qu'ils étaient toujours en queue de peloton
Oui.
parmi les meilleurs grimpeurs et ça mettait par terre toute leur saison.
Oui.
Là, c'est des coureurs qui sont complets, qui font les saisons en Europe, qui font les classes de jeunes également en Europe. Voilà, un coureur comme Buitrago, il a fait le tour du Val d'Aoste. Enfin, il s'est illustré aussi également dans les épreuves européennes avant d'arriver chez les pros. Donc, ça, c'est ce qui a changé. On voit que le cyclisme, il est vraiment mondialisé. On a des coureurs qui viennent de potentiellement un peu partout. Et c'est grâce à ça, quoi. Ils ont la culture, l'expérience. Ils sont bien encadrés, bien entourés. Il est dans une très bonne équipe. Donc voilà, il a été propulsé. C'est bien d'avoir des nouvelles têtes.
C'est ça, tout à fait. Donc Santiago Buitrago, 3e de Liège-Bastogne-Liège 2023. Tom Pidcock, un petit mot, Charlie, deuxième
Alors,
place.
un
Ouais.
petit mot pour simplement se dire, est-ce qu'il ne va pas faire un petit complexe sur les classiques parce que il est très bon, il a été magistral hein, sur les Strade Bianche cette année où il fait un show de 50 km hein, en étant vraiment vraiment sous la menace très longtemps. Mais sur le niveau juste au-dessus, pas des monuments mais des courses voilà de 250 km, bah il a calé quoi, il a calé à l'Amstel, il s'est mis dans le rouge. Et là, il a senti qu'il se mettait dans le rouge, donc il a un peu coupé son effort. Il a bien fait, parce que sinon, il n'aurait pas pu monter sur le podium, je pense. Mais voilà,
C'est vrai que
il
ça a été
a.
intelligent de sa part de couper son effort, effectivement,
Oh oui,
et
d'ailleurs,
d'attendre le sprint après, derrière.
il l'a dit, je crois. Hein, il a été tout à fait lucide quand il a vu Remco partir la première fois. Il a réussi à l'attraper sa roue, mais qu'il savait très bien qu'il n'arriverait pas à tenir ce rythme. Et d'ailleurs, il n'a pas pris un seul relais et
Et
il se savait en danger.
c'est là tout le résumé parfait pour dire que maintenant, les autres, entre guillemets, courent pour jouer deuxième.
Un peu, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est beaucoup le cas des courses du World Tour aujourd'hui. C'est que on parle bien sûr des premiers, mais on l'a dit tout à l'heure, les équipes, l'équipe
Oui.
d'Alaphilippe, Alaphilippe pas leader, l'équipe Quick-Step, où Alaphilippe est pas leader, il est équipier. Enfin, c'est quand même incroyable. Et forcément, c'est ce qui s'est un peu passé par pas mal de courses du World Tour où les grosses armadas cadenassent la course, cadenassent le rythme, les échappées. ne laissent que des miettes à leurs adversaires et c'est difficile de s'immiscer en fait de trouver. On a réussi à trouver des individualités comme Boutrago, mais voilà, c'est quand même vraiment très dur de pouvoir leur damer le pion. Ils ont des même à 7, ils arrivent à tenir la course. Donc je pense que c'est ça aussi qui est un des paramètres. Ce qui fait un peu peur d'ailleurs, je pense à des équipes comme Marc Madiot qui veulent faire un salary cap pour essayer de limiter un peu comme notre sport la masse salariale. Parce qu'ils voient bien que les meilleurs partent dans les meilleures équipes. Donc forcément, ça concentre en fait les talents à certains endroits et forcément, c'est sûr que ça rend les courses beaucoup plus difficiles à bouger.
C'est sûr, c'est clair. Et c'est vrai qu'on le voit bien depuis quelques temps, effectivement, et depuis qu'il y a des grosses écuries avec des gros budgets, effectivement, dans le peloton, ça fait la différence, forcément. On parle de nos Français, Charlie?
Allez.
Allez, go, let's go, Cocorico. Moi, je te donne mon avis. Je suis plutôt content de ce Liège-Bastogne-Liège côté français. On a un Valentin Madouas qui termine cinquième, qui avait fait troisième au Tour des Flandres l'année passée, qui continue d'être sur un top 5 d'un grand monument, alors que Valentin n'était pas au top physiquement. On rappelle que c'était à Paris-Roubaix ou au Tour des Flandres où il avait chuté, Valentin.
Au Flandre, me semble-t-il, parce qu'il a...
Ouais, il me semble, hein. Il me semble que c'était autour des Flandres. Alors, il y a tellement de courses, tellement qu'on s'y perd. Hein. Si on n'a plus de notes, on s'y perd. C'est vrai. Voilà, des petits pépins physiques. Donc, Valentin n'était pas encore à 100%, à son meilleur niveau. Et puis, Guillaume Martin aussi qui fait sixième. Guillaume, très belle sixième place. Donc, voilà, le même avis, Charlie, plutôt satisfait de la performance des Bleus.
Compte tenu de la concurrence, la très forte concurrence, c'est vraiment pas mal de pouvoir faire des top 10. Il y a pas mal d'années où on n'avait pas de Français avant les époques d'Alaphilippe, où on avait du mal à trouver des Français réguliers dans les top 10. Manoas, il est très régulier, il est hyper résistant. Faire ce qu'il fait, d'ailleurs, on parlait d'Estrade Bianche, qui est quand même une course difficile, où il termine deuxième cette année. Où il revient encore de nulle part en fait, hein, et pas voilà, il remonte en fait. Plus c'est difficile, plus la course est rude et plus il arrive à faire son trou. Il est un peu sous-estimé, je pense, en France parce qu'il n'a pas de monument. Mais pour moi, c'est presque le meilleur coureur de course d'un jour actuel, c'est qu'il est français en tout cas, parce qu'il est toujours dans le final, toujours placé. Et arriver à faire podium sur les Flandriennes, puis l'année d'après, faire pas très loin du podium pour Liège, ça montre une classe vraiment, vraiment très supérieure à la moyenne. Alaphilippe, on l'a vu, on l'a revu un peu dans l'équipe pour rouler pour Remco. Donc ça, c'était plutôt rassurant aussi.
Ouais, mais ça a fait du bien, je trouvais aussi, de voir Julien au service de Remco et un Julien aussi qui montre qu'il est collectif, qui, même s'il est blessé, pas au top physiquement, il pourrait se dire voilà, j'ai quand même un statut, tout ça, qu'il pourrait avoir dans une autre équipe. Mais déjà voilà, il n'était pas assez en forme physiquement pour jouer à la victoire, bien sûr, mais voilà, se mettre au service de Remco, de vraiment la jouer collectif, c'est ça aussi qu'on aime. Et peut-être que, mon cher Charlie, on est dans un monde où voilà, on met en avant que les victoires, que les hommes qui gagnent, voilà. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, Soudal Quickstep est une superbe équipe, a vraiment aidé Remco là dans son succès. Et on peut être fier aussi de ce qu'a fait Julien.
Moi, je pense oui, parce que il a vraiment pas eu de chance. Les chutes, les maladies, enfin, ça s'enchaîne pas bien et forcément il a manqué, notamment les courses, les Ardennaises. Peut-être qu'effectivement cette course, ça va le débloquer dans le sens où ça y est, il a vraiment pu peser sur une épreuve World Tour cette année. Il a remporté une course en début de saison, mais on peut la mettre un tout petit peu à côté. Là vraiment, il reprend quelque part confiance. Il a redonné des signes positifs à son équipe aussi. Il a répondu présent. Il a vraiment contribué à la victoire de Remco. Donc, il faut espérer qu'il puisse préparer les prochaines échéances de manière tout à fait sereine pour essayer de briller à nouveau et de à nouveau lever les bras, quoi. Ça fait plaisir effectivement de le revoir. En tout cas, voilà,
S'arracher comme ça.
pas, voilà, exactement.
Mais ouais. Et de retour vraiment dans le cyclisme qu'on aime chez Julien, la bataille, même dans un autre rôle, ça fait plaisir. Un mot aussi sur Guillaume Martin qui finit sixième. Belle perf.
Clairement aussi, oui, tout à fait, comme Victor l'a fait aussi, qui est
Oui.
chez Cofidis, où on voit à nouveau un petit collectif Cofidis qui est sur les courses, qui n'est pas complètement effacé. Et bah, ils ont bien senti la course parce que Guillaume Martin, on ne l'aurait pas vu aussi bien placé, je pense, au départ de Liège-Bastogne-Liège. Donc c'est pas mal, ça montre que bah, voilà, ils arrivent dans une période plus favorable. Et je crois que Guillaume Martin, cette année, c'est tout pour le tour. Il n'y a pas à s'éparpiller ailleurs avant. Parce que le cours sera très difficile et je pense que c'est pas mal. Ça va également leur donner, je pense, bon moral pour attaquer la préparation du tour.
Exact. Exact. Bon, mon cher Charlie, on a fait un petit peu le tour de tout, voilà, tous les résultats principaux de ce tour des Flandres, j'allais dire, de ce Liège-Bastogne-Liège. Voilà, on en a bien parlé. Juste avant de refermer la page de la doyenne, à part si tu aura quelque chose à rajouter, bien sûr. Je voulais qu'on parle, on n'en a pas beaucoup parlé pour l'instant, de ce duel manqué. Alors, je me disais, voilà, c'est pas fait, ça s'est pas fait, quoi. On va pas en parler 3 heures. C'est comme ça. Tadej Pogacar, on va en parler d'ailleurs tout de suite après de Tadej, prendre un petit peu des nouvelles du Slovène. Mais on n'a pas eu ce duel, du coup, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, puisque le Slovène est tombé à 85 km de l'arrivée. Je vous fais juste la petite la petite explication de sa chute. C'est Honoré qui était juste devant Pogacar dans une descente, qui a pris un trou, ses roues dans un trou sur le goudron, et ses deux roues ont crevé. C'est bien ça, Charlie, hein. D'un coup, ses deux roues ont crevé et Pogacar était juste derrière, donc il n'a pas eu le temps de freiner, et bim bam boum, chute fréquente pour un cycliste sur le poignet, et il est parti directement à l'hôpital. Et donc, ça nous a privé d'un magnifique duel sur ce Liège-Bastogne-Liège entre Remco et Tadej. Est-ce que, alors, sur le moment, je pense qu'on a tous été frustrés, Charlie. Hein.
Oui, clairement, évidemment.
On a tous tapé du poing sur la table. On s'est tous dit merde, oh non, on la voulait, on l'attendait depuis tellement longtemps, cette confrontation avec deux exceptionnels coureurs. On l'a déjà pas souvent, ils se sont pas beaucoup croisés. Est-ce que à ce moment-là tu t'es dit ça y est, Remco a gagné?
Presque, parce que c'est vrai qu'il y a une telle classe, en fait, que on cherche l'adversaire. Le cyclisme se nourrit d'antagonistes, de batailles, de duels en fait entre bah, souvent deux personnalités, deux équipes. Et c'est ça aussi qui fait le sel de ce sport, c'est ces matchs en fait, ces coureurs qui voilà vont se disputer la victoire. Quand on voit un coureur qui s'envole, bon bah le suspense était un peu tué, il n'y avait plus de rival à sa mesure. Donc on a besoin de ça, on a besoin d'avoir des confrontations, on a besoin d'avoir des duels. On a besoin dans l'histoire de se dire avant la course, ce qu'ils ont un peu bien fait la presse belge et internationale, de dire bah il va y avoir un match Pogacar, Remco, rendez-vous dimanche. Et forcément, ça
Oui,
contribue aussi à
bien sûr.
l'attente et à l'intérêt, quoi. Et tu as raison, hein, c'est quand il a été par terre, on se dit bon bah voilà, Remco, sauf accident, il va
Même
réussir
si
à gagner.
il y en a certains, je lisais un peu les commentaires pendant la course, qui disaient ah mais ouais, maintenant Tadej est plus en lice, ça va être ouvert. La course est plus ouverte. Parce que on connaissait. Alors il avait gagné le Tour de Catalogne. Remco Evenepoel, mais il n'était pas apparu en peloton depuis un certain moment donné. Donc on s'est dit peut-être, alors on n'a pas trop d'informations sur son rythme. Finalement, on a tous été balayés parce que c'est d'ailleurs la nouvelle préparation, le nouveau mode de préparation du cyclisme moderne, en stage ou dans le peloton, il y a le même rythme, il y a la même intensité et il y a des charges de travail qui sont semblables, quoi.
Oui, c'est vrai, il y a ce phénomène de préparation de course, les blocs de course d'entraînement sont assez proches de la compétition. Après, il y avait quand même un signe pendant la course, c'est bah, l'attitude de Quick-Step, parce que sur une course par étape, on peut un peu rouler comme ça pour donner des signes un peu contraires, et même si le leader est un peu moins bien, pour essayer de cacher une faiblesse. Mais là, ils ont tellement imprimé un rythme infernal que si la Quick-Step avait été plus en dedans et plus à suivre les coups plutôt qu'à mener le peloton, là, peut-être, ça aurait vraiment donné de l'espoir à ses adversaires. Le fait qu'ils mènent tambour battant toute la chasse derrière Tratnik notamment, c'est un peu, on va dire,
donner un
tuer le
indice,
game,
ouais.
quoi. Voilà.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis derrière, on sait ce qui s'est passé, bien évidemment. Charlie, est-ce que tu as un mot? L'apéritif, plutôt le plat principal. Là. On va plutôt avoir le dessert avec le Tour de Romandie. Mais voilà, quelque chose à rajouter sur ce Liège-Bastogne-Liège 2023.
Peut-être un dernier point, c'est que c'est la dernière victoire, le dernier doublé, c'était Michele Bartoli à la fin des années 90. Donc ça date d'il y a très très longtemps, ça marque le caractère un peu exceptionnel de ce qu'a fait Remco. Donc c'est peut-être un élément à souligner, quoi. C'est vraiment, vraiment exceptionnel parce que du coup c'est très rare de pouvoir enchaîner deux monuments comme cela deux années de suite.
C'est clair. Et tout le chapeau, encore une fois, évidemment, à Remco Evenepoel, à ce qu'il a produit. Et puis, on l'aura, notre duel entre Remco et Tadej, Charlie.
En 2024, sans doute.
Voilà, c'est ça. Sur le Tour, en plus. Voilà. Et puis, sur les autres monuments. Ça nous fait encore plus saliver, j'ai l'impression, aussi, j'ai envie de te dire. Il y a aussi cette attente. Et ça en fera un autre grand monument, encore plus exceptionnel.
C'est vrai. Après, avant ça, quand même, on oublie les championnats du monde, parce qu'on se projette sur le Tour. Mais à Glasgow, je pense qu'il y a moyen Remco veuille conserver son titre. Et comme il est placé assez près du Tour, si Pogacar est de la partie, il aura sans doute aussi prolongé pour essayer d'avoir ce maillot arc-en-ciel dans son vestiaire, quoi.
Ta fille. Ah ouais. Non, mais tout ça pour vous dire qu'on a encore une saison extraordinaire. Évidemment à vivre. Voilà donc pour ce LBL Liège-Bastogne-Liège 2023. Il y en a un qui s'est cassé la margoulette pour notre plus grand désespoir dans cette doyenne, c'est Tadej Pogacar. Et on croise les doigts de voilà partout. On prie le Saint-Esprit, on prie qui vous voulez, où vous voulez, mais on espère évidemment voir Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France en juin et juillet. Comment tu as vécu cette chute, Charlie? Elle n'a pas été télévisée, on n'a pas les images. Hein,
non, c'est vrai. C'est d'ailleurs un peu un élément surprenant de Liège, parce qu'on est habitué en fait à voir toutes les épreuves presque de bout en bout, en fait, c'était pas filmé, donc on n'a pas su ce qui s'est passé exactement. Après, c'est vrai que c'est quand même une blessure classique pour un cycliste, mais qui est un peu embêtante parce qu'il va pas pouvoir s'entraîner correctement avant, en tout cas en extérieur, avant assez longtemps.
Donc, deux mois sans vélo. Hein.
Voilà, c'est beaucoup, hein, cinq semaines sans faire de vélo à l'extérieur, donc il pourra faire du vélo à l'intérieur sans tirer sur le guidon. Il va forcément perdre un peu en qualité de préparation parce que il a jamais été confronté à ça avant le Tour quelque part. Donc il y a un point d'interrogation sur le fait de pouvoir retrouver tous ses moyens et pouvoir préparer le Tour comme il aurait voulu le faire. Ce sera forcément différent. Donc il va devoir s'adapter à cette contrainte.
C'est ça qui va aussi nous mettre un petit peu de... Il est tellement fort que ça va lui rajouter une épreuve supplémentaire pour voir s'il est capable. S'il arrive à résister à ça, ça sera assez exceptionnel.
Oui, c'est sûr. Remco, d'ailleurs, a été assez sport là-dessus en disant, voilà, ça m'est arrivé aussi de chuter, de devoir revenir de blessure. Et c'est pas facile, en fait. C'est pas si facile. Donc, ça rendra peut-être que plus grand le fait de le revoir dans les courses triomphants. Après avoir surmonté cette difficulté.
Ouais. Pas d'inquiétude donc par rapport au Tour là à court terme, il devrait être rétabli à temps et pouvoir même un petit peu le préparer et après remonter sur le vélo en fin juin. Enfin, mais sur le Tour.
Il y a quand même une petite partie, il faut pas se mentir, de poker menteur justement de l'équipe pour dire que tout va bien, il est très souriant.
Oui. On a vu une photo d'ailleurs avec le chirurgien tout de suite après l'opération. Grand sourire de Pogacar comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Mais...
Voilà, donc il peut y avoir un peu une opération de communication d'intox, c'est peut-être que la blessure est un peu embêtante et qu'on ne veut pas dire aux adversaires trop tôt qu'il serait dans la faiblesse, pas trop dévoiler ses faiblesses. Donc, bon, faut voir en fait comment se passe vraiment sa reprise, puisqu'ils sont un peu habitués à devoir un peu dire que tout va bien pour
Oui, pour
justement.
faire
Voilà.
attention aussi, oui.
Exactement, on ne sait jamais.
Mais puis on n'est pas chirurgien, on n'est pas médecin, on peut pas voilà prédire exactement ce qui va se passer. Ça dépend aussi de lui, de ses facultés de récupération. Il y avait eu une pour faire un peu l'historique de ses blessures à Tadej Pogacar. Je me souviens d'une chute, enfin d'un moment d'indisponibilité. Je me souviens plus tellement quand c'était. Charlie, est-ce que tu as des souvenirs par rapport à ça?
Bah, c'est assez rare en fait, parce qu'en fait, il ne
Ouais.
chute pas beaucoup, donc ça doit être. C'est pour ça qu'on a du mal à se remettre en tête, parce que c'est assez rare de ne pas le voir. Il avait dû peut-être avoir un problème
Je sais plus tellement. Ouais.
de comment dire, à une jambe, je crois. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr du tout non plus. Hein, tu vois,
Ouais.
c'est pas clair dans
Ouais.
mon esprit.
Bah oui, puis on espère que ça sera vite clair pour lui, par contre, dans son protocole des récupérations. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, 2 mois sans vélo en extérieur. Et puis après reprise progressive, on parle voilà d'absence de Poggi dans le peloton entre 8 et 10 semaines. Donc voilà, je sais pas, même pour le Tour de Slovénie, je sais peut-être qu'il reprendra, je me dis Charlie, au Tour de Slovénie pour reprendre un peu des habitudes dans le peloton et après reprendre sur le Tour, je me dis peut-être.
Oui, même je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir des, s'il arrive à faire
Oui.
un bloc d'entraînement, même
Bien
un
sûr.
championnat de Slovénie, ça suffit, hein.
C'est ça.
Juste pour vérifier que tout va bien, que contrôler
Ouais.
que ça se passe bien, il n'y a peut-être même pas forcément besoin ce serait mieux évidemment, parce que s'il n'y a pas de course par étape avant, toujours mieux pour les automatismes sans doute, mais bon. Faut déjà, je pense s'il sera content, s'il retrouve tous ses moyens, voilà. Quelle que soit la date de sa reprise.
Est-ce que on est un petit peu dans le cyclisme fiction là, Charlie? Mais si jamais, malheureusement, et évidemment, on l'espère évidemment pas pour Tadej, mais si malheureusement il y avait des complications et que c'était un petit peu juste pour le Tour, sait-on jamais? Est-ce que il pourrait envisager derrière la Vuelta, par exemple? C'est que voilà, ça peut être aussi une année où voilà, il veut évidemment prendre sa revanche sur l'année dernière sur Vingegaard, sur le Tour de France, marquer l'histoire sur le Tour. Mais la Vuelta, finalement, il n'a jamais gagné aussi d'autres grands tours. On sait combien c'est difficile de gagner plusieurs grands tours par année. Là, il avait fini troisième en gagnant 3 étapes en 2019, je crois, sur la Vuelta. Est-ce que ça peut être envisageable si jamais c'est compliqué ou il y a des complications malheureusement pour participer au Tour?
C'est difficile à dire parce qu'en fait, il a jamais été placé dans la situation de devoir être un peu dans la faiblesse en fait. Enfin, on l'a senti fatigué sur certaines courses après le tour où il n'avait plus exactement le même niveau aux Jeux Olympiques notamment. Il avait voulu participer, on sentait qu'il était émoussé. Là, c'est différent. Je pense qu'il va vouloir participer coûte que coûte parce que il est Tadej Pogacar, il est le leader de l'UAE. Quitte à peut-être se mettre en risque et de devoir retomber, et là, du coup, la disponibilité serait beaucoup plus longue. Ça, c'est déjà arrivé à d'autres coureurs par le passé. Donc, je pense qu'il va vouloir s'aligner coûte que coûte sur le tour. Après, bien sûr, s'il n'est pas présent sur le tour, bah, c'est-à-dire que le championnat du monde, bah, il aura beaucoup moins de chances de pouvoir triompher. Donc, bien sûr, la Vuelta, comme tu le dis, c'est une solution pour pouvoir sortir par le haut de la saison avec une note positive. Mais ce sera vraiment presque par défaut, quoi, parce qu'il a vraiment, je pense, coché les deux autres courses avant. Mais c'est pas exclure, c'est pas exclure. Et si vraiment les choses se passaient pas bien, il pourrait sans doute retarder et ne pas être compétitif sur le tour. C'est quand même, voilà, c'est presque tirer une balle dans le pied, quoi. Donc, faudra
Surtout,
bien, bien
surtout qu'après,
analyser.
il y aurait le championnat du monde qui pourrait faire, entre guillemets, frais à Glasgow et puis après enchaîner sur la Vuelta. Mais voilà, on n'y est pas encore. On va attendre et on espère voir évidemment Tadej Pogacar sur le Tour de France. Là, juste pour vous préciser, c'est une fracture, deux fractures sur le poignet. gauche, hein, avec sur les os, le scaphoïde de gauche qui est souvent souvent touché quand il y a des chutes de ce type-là. On le disait, le poignet, c'est une évidemment des chutes assez classiques du cyclisme et de la course à pied aussi d'ailleurs. Ça fait partie des deux sports qui sont qui voilà entraînent le plus de fractures du poignet. Donc voilà. Et puis c'est le scaphoïde, petit os. Et puis le deuxième, c'est le demi-lune. Hein. C'est ça, mon cher Charlie, l'os demi-lune. Voilà, voilà, voilà. Bon, on croise les doigts. On prie pour Tadej Pogacar. On n'a que ça à faire maintenant. Et on lui souhaite très bon rétablissement. Parce que c'est vrai que ça fait un peu triste pour lui quand même, Charlie, pour conclure sur Tadej, de le voir trébucher ainsi sur Liège-Bastogne-Liège avant une grande bataille annoncée avec Remco, alors qu'il brillait de mille feux depuis le début de saison. Ça fait un petit passement au cœur.
Ouais, c'est sûr, de le voir malchanceux, même s'il s'estime, lui, finalement, quelque part presque chanceux d'avoir que le poignet cassé.
Oui.
Parce que il aurait pu, voilà, ça aurait pu être encore plus grave. Donc, voilà. On va dire quelque part, on va dire, c'est un mal pour un bien, bien sûr. Quand on chute et quand on se blesse, on le souhaite évidemment à personne. Mais ça va peut-être lui faire prendre une direction un peu différente pour préparer les grandes échéances qu'il a sans doute en tête, ambitieux comme idée.
Ouais. Surtout que c'est pas de sa faute en plus, et puis c'est pas de la faute de Michael Honoré non plus, hein. Il est tombé, enfin il a été embêté par ses trous dans la route. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. On prend la direction de la Suisse. C'est parti. Ah, en Suisse, c'est le chocolat. C'est le chocolat pour le dessert. Voilà. Ça tombe pile. C'est le barbecue chocolat. On arrive. Voilà. On nous apporte le chocolat. Aïe, aïe, aïe. Bref. Revenons sur le vélo. C'est pas bon le chocolat pour le vélo. Attention, Charlie. Le Tour de Romandie s'était lancé. Alors, ce barbecue vélo podcast est disponible donc ce mercredi 26 avril au matin, au tout petit matin frais. Et donc si on parle de d'hier, donc le mardi, il y avait le prologue de ce Tour de Romandie, donc au pays helvète, remporté par Joseph Tcherny, le Tchèque de Soudal Quickstep, qui a devancé Tobias Foss avec Rémi Cavagna qui est troisième. Ça veut dire que Charlie, ils sont dans la même seconde, Rémi Cavagna et Tobias Foss.
Oui, c'est, ils ont une seconde d'écart, ils sont trois en une seconde effectivement. Parcours très court, donc il y a beaucoup de coureurs qui se tiennent dans un mouchoir de poche.
Ouais, c'est ça, 7 km, 7, et quelques kilomètres, je crois, c'est ça.
Ouais, un peu moins de 7 km pour
un peu moins. Ouais, 6,8, tout à fait, autour du Port Valais. Tcherny, pas une surprise parce que il avait été vainqueur trois fois, je crois, du championnat de République tchèque de contre-la-montre. Il était aussi champion de République tchèque tout court sur route et il avait remporté une tête du Giro. Charlie.
Absolument. Donc c'est quand même un coureur qui est apparu dans les palmarès. Forcément, il devance le champion du monde en titre du contre-la-montre. Donc
oui.
Quelque part, il réalise un petit exploit et fausse une toute petite contre-performance. Cavagna est troisième, c'est un très très beau coureur. Nico Denz, lui, c'est quand même une bonne place, hein, quatrième. Et il y a Joël Sutter qui est cinquième, qui est un super bon coureur suisse de chez Tudor, qui est champion de Suisse. Du chrono et qui est de très bonnes jambes, qui s'est illustré autour de Sicile récemment. Donc c'est pas mal, ça montre quand même que il y a un bon niveau. Il n'a pas volé cette victoire, Cerny. Donc j'espère que c'est encore un Quick-Step. Donc ils ont à nouveau des victoires. Donc ils ont inversé un peu la tendance.
J'ai pas fait effectivement le lien. Victoire de Remco sur les Bosses de Liège, victoire sur le prologue de Joseph Tcherny pour ce lancement donc du Tour de Romandie qui va être intéressant comme à chaque fois à suivre, Charlie, parce que il y a un beau plateau. On a Damietz qui est présent chez UAE, qui sera peut-être, tu vas nous le dire dans quelques instants, le favori de cette édition, entouré de d'Ayuso. On n'oublie pas, bien évidemment, de Berg, de Maïka, qui sont là également pour les épauler. Il y a Sergio Higuita chez Bora, avec Bourman et Jungels. Ce sera peut-être les deux grosses équipes UAE et Bora. Et puis, on a Jumbo, un petit peu, on dirait, un cran en dessous, mais avec aussi des coureurs comme Tobias Foss, qui fait deuxième de ce prologue, ce contre-la-montre. Il y a un deuxième contre-la-montre dans quelques jours à suivre. Donc, ça peut être aussi une carte intéressante à jouer. Je voudrais absolument ton avis sur Tobias Foss. Et en plus, il y a des petites actualités mercato. On parle de transfert la saison prochaine, Tobias Foss qui changerait d'équipe. Donc, on en parlera. Mais d'abord, sur la course en elle-même, mon cher Charlie, qu'est-ce que tu veux nous dire de ce Tour de Romandie?
C'est une course qui est magnifique à voir. D'une part, rien que d'un point de vue télévisuel, on est dans la verdure, la verdure helvète. On est entre la France et la Suisse, parce qu'il y a des étapes qui passent, qui traversent la France, donc par le Jura. Donc, c'est vallonné. Il y a quand même une arrivée assez difficile. Le contre-la-montre, il est en partie en montée. Donc, il est quand même, c'est un parcours qui est quand même assez exigeant. C'est un mini Tour de Suisse, un Tour de Romandie. Donc, ça consacre pas forcément le prochain vainqueur du Tour, c'est un peu l'approche de certains vainqueurs du Tour par le passé. Là, c'est un peu moins le cas, mais c'est une très belle course, très ouverte. Il y a quand même vraiment, comme tu l'as dit, de très bons coureurs. Dont tu as parlé d'Ayuso. Moi, je serais intéressé de voir aussi ce que va donner Kevin Vauclin, qui semble très en jambes cette année sur les courses par étapes. Là, c'est le niveau.
Et qui va faire le Giro avec des ambitions générales.
Alors voilà, est-ce que c'est pas annonciateur de une carrière fabuleuse sur les grands tours. Donc là, il a l'occasion vraiment de se tester. Donc il y a vraiment matière. Il y a Bardet qui est là. Donc il y a quand même de l'opposition pour un jeune coureur comme ça, de jeunes coureurs qui veulent s'illustrer. C'est un parfait terrain de jeu.
C'est ça. Ah ouais, avec toujours des belles étapes, notamment l'étape de samedi qui sera l'étape reine qui se finira tout en haut à Thion 2000, plus donc de 2000 mètres d'altitude, avec une dernière montée hors catégorie qui sera de 20,8 km à 7,8% et qui devrait faire des dégâts. Enfin, on n'est jamais sûr, mais on annoncé comme ça, on peut le penser, en tout cas on peut espérer que ça bougera de ce côté-là. Voilà donc, et puis voilà, aujourd'hui, donc mardi, jour auquel le podcast est déposé au petit matin, c'est une étape quand même montagneuse, hein, avec une arrivée au sentier avec très peu de dénivelé quand même sur la fin, mais quand même des côtes et un col de le mont d'Orzère, si je le prononce bien correctement, à 6,9%, 3,8 km. Donc voilà, ça peut être aussi un peu accidenté. Après, on a une étape entre Morteau et la Chaux de Fonds, 162,7 km. Deuxième étape, donc, avec aussi là des côtes pour finir. Voilà. Avec une dernière montée à 6% sur 1 km, après 6 km de plat pour finir. Ensuite, on aura pour la troisième étape le contre-la-montre de 18,75 km. Quand le contre-la-montre assez complet, avec une descente de 5 km pour finir, pour arriver jusqu'à la ligne. Avant, il y aura 4 km de montée et les 6 premiers kilomètres, ils sont plats. Donc voilà, ensuite l'étape numéro 4, avant-dernière étape entre Sion et Thion 2000 dont on a parlé. Et puis, l'arrivée à Genève, ce dimanche donc, cinquième et dernière étape, qui est annoncée plus tranquille, avec quand même deux ascensions qui sont au programme et une descente pour finir vers Genève. Ça peut faire des écarts surtout samedi. Ou voilà, on va aussi jouer, Charlie, sur les chronos pour faire la différence.
Je pense qu'il y a moyen de prendre le chrono, de marquer, comme on a pu le voir d'ailleurs dans les premiers signes de ce prologue, des coureurs très en forme, très en vue. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Si on est bien placé sur le chrono, il faudra bien défendre ses chances dans la montée la plus dure de samedi. Donc Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est, je vois qu'il y a Bernal, a priori, qui est toujours en course. De comment il va réagir, quelle va être son attitude, parce qu'on l'a pas trop vu jusqu'ici depuis sa reprise. Donc, ça va quand même être assez révélateur, quoi, du niveau des uns et des autres. Thomas Glock chez Jumbo, très jeune coureur qui semble prometteur. Est-ce que Thibaut Pinot, qui est en approche de sa fin de carrière, va être brillant et annonciateur d'un bon Giro? Voilà. Ce serait intéressant de
Surtout
voir
qu'il
quand
y a
même
un
s'il y a des
coup,
signes.
ouais. Il y a un coup à jouer avec Lenny Martinez qui est là, qui fait un très bon début de saison aussi. Michael Storer, recrue, qui sera aligné également. Donc il y a une belle équipe chez FDJ.
Ouais, ils se sont bien rodés, notamment dans les courses du Tour de Jura, Tour du Haut-Doubs, avec Germany qui avait été bien roulé pour ses leaders. Storer, c'est du solide. Puis ils sont entourés de solides guerriers comme Ladanius et Kolonovalavas, qui sont des parfaits équipiers. Donc ils sont vraiment arrivés avec une belle équipe pour faire des résultats, je pense. Pour remporter des victoires, ils sont pas venus pour faire de la figuration.
Pour ton favori au général, Adam Yates, c'est voilà, il est quand on entend et qu'on discute avec les gens sur leur pronostic du Tour de Romandie, il nous dit ouais, Adam Yates, c'est le nom qui revient le plus.
Ah, c'est le nom qui arrive le plus souvent, c'est vrai. Moi, je mettrais une petite pièce sur un autre coureur de l'équipe UAE qui est Ayuso,
Ouais.
parce que peut-être que c'est l'occasion justement de prendre le leadership, quoi. Derrière Pogacar, s'il y a on dirait un statut de leader protégé, je pense que c'est un peu là, dans ces courses-là, que ça peut se gagner. Donc moi, je miserais peut-être plus sur Ayuso, même si je ne sais pas du tout où il en est ou actuellement. Ça va être un peu la révélation de savoir où il en est vraiment physiquement. Puis il y a des coureurs comme Carlos Rodriguez, il faudra surveiller
Oui,
aussi.
chez
Donc
Ineos, oui.
exactement de
Puis comme
ces
tu dis, ça va
coureurs-là.
être intéressant de voir la cadence de Bernal, voir où il en est.
Voilà, est-ce que je ne suis pas encore certain qu'il puisse prétendre à la classement général du Tour
Ouais.
de Romandie. Mais voilà, est-ce qu'il va réussir à suivre les meilleurs,
C'est ça.
à retrouver un niveau en montagne? Ce sera à surveiller.
Et puis les Bora avec Iguita, on en parlait, Bormann et Jungels aussi, ce sera une très belle équipe, la Bora.
Oui, et puis ils ont gagné avec Vlasov l'an passé. Bora, donc ils ont un collectif qui est solide. La Dance, il a fait un très bon prologue. Donc il y a Iguita qui est un peu passé. Un peu à travers là de Liège, il a sans doute à cœur à se rattraper. Bob Jungels, qu'on n'a pas encore vu cette année. Donc voilà, je pense qu'ils arrivent. Voilà, c'est le moment où ils peuvent faire des résultats. Donc forcément, il faut qu'ils sortent de grandes performances. C'est un peu la même chose pour l'équipe Intermarché Circuit Louvanti, où il y a Luis Menchès. Qu'on n'a pas encore vu, on n'a pas même vu Rui Costa. Donc voilà, il y a quand même de belles oppositions. Il n'y a pas d'énormes coureurs dont on sait qu'ils sont a priori favoris pour écraser la course.
Rui Costa d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, Charlie, qui a fait un très bon Liège-Bastogne-Liège, hein.
Ouais, il s'est accroché. C'est vrai qu'il a fait un excellent début de saison. Il a remporté, il a fait un peu des saisons en dedans. Et il a fait un transfert. Il semble avoir pris ses marques dans l'équipe. Donc effectivement, ce sera un coureur à surveiller pendant cette semaine. En plus, il est très malin, très opportuniste. Donc faut toujours se méfier de ce Rui Costa.
Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il fait un gros début de saison. Il reprend du poil de la bête malgré son âge avancé, oui. C'est vrai qu'il fait plaisir à voir. Et puis les Jumbo, Charlie, je voulais un petit peu avoir ton avis sur le tour de Romandie que peut réaliser les Jumbo. Alors il y a des cartes en chrono, bien sûr, pour ce chrono de demain ou après-demain, je me rappelle plus là, du calendrier. Mais avec Juan Denis, bien sûr, deux champions du monde dans cette équipe et Tobias Foss. Comment tu vois les choses pour Jumbo? C'est vrai qu'on peut se dire que Tobias Foss, si voilà, il est au niveau en montagne, qu'il arrive à suivre avec aussi le chrono qui arrive et le prologue où il a pris cette deuxième place à 1 seconde de Tcherny, il peut être la belle surprise.
Il peut être la belle surprise parce que, effectivement, dans l'équipe Jumbo, cette fois, il n'y a pas de leader vraiment désigné. Chacun pourrait prétendre à un Dennis dans ses meilleures années, Kreuzweig, évidemment. Il y a Thomas Glock qui sera sans doute un grand leader dans le futur, mais qui est peut-être encore un petit peu tendre, mais qui pourrait très bien prendre le flambeau. Donc c'est assez ouvert en fait. Je pense que ça peut vraiment se jouer au résultat des premières étapes, pour dire quel sera celui le mieux placé, qui sera protégé. Donc pas falloir qu'il se loupe dans les étapes un peu piégeuses avant l'étape de samedi. Parce qu'on ne sait pas encore, on ne sait pas dire en fait quel est le leader désigné. Bon, il y a des équipiers, Van Emden et Racing, eux, sont équipiers, comme le trois dernier coureur qui est Ofsted 2, là, les Larsen Ofsted 2. Donc, mais les autres, ils pourraient tous prétendre au maillot de leader. Donc, ça va être un peu à celui qui va être le mieux placé, je pense.
C'est vrai.
Ou alors d'aller chercher des succès d'étape pour pouvoir prétendre au rôle de leader, ce qui revient un peu à. Donc en fait, non, c'est, je pense que cette course qui va être très plaisante à voir et à suivre en termes de résultats, on devrait bien s'amuser.
À suivre tout ça, effectivement, ça sera assez ouvert et rendez-vous donc dimanche à Genève et puis mardi prochain pour votre nouveau barbecue vélo. On débriefera bien sûr ce tour de Romandie. Juste oui, côté français pour finir et pour boucler d'ailleurs ce barbecue vélo et cette avant-course du Tour de Romandie, parce que voilà, même si le prologue, voilà, on le compte quand même comme une étape, nous, voilà, ça fait partie du truc. Mais quel bleu, quel coureur français tu suivras? On a déjà parlé d'Audi Popinot, de Lenny Martinez, de Kevin Vauclin. Il y a Romain aussi, Romain Bardet, qui est aligné et qui a fait d'ailleurs un très bon contre-la-montre, un très bon prologue.
Ouais, il était pas si loin finalement. Il perd très peu de temps sur Ragusa. C'est quand même plutôt positif. Il y a pas mal d'années où il perdait du temps et toute chance en fait de figurer au classement général de course par étape et d'une semaine. L'année dernière, il avait remporté le Tour des Alpes. En fait, j'aurais presque. Il sait qu'il a des bonnes jambes. Il était un peu frustré de son Liège. On n'en a pas parlé de son Liège, mais il était un peu frustré de son niveau. On voit qu'il était vraiment assez proche des tout premiers quand Renko a déclenché. Donc je pense qu'il a à cœur vraiment de réussir sa préparation du Tour et de réussir un excellent Tour de France cette année. Lui, il vise le podium du Tour, rien que ça. Donc, il pense qu'il a une place à aller chercher. Donc, il sera vraiment à surveiller. Mais bon, c'est vrai que si on regarde le futur, tu as cité Lenny Martinez, c'est ce coureur qui est tellement déçu d'être deuxième. Il dit deuxième, c'est pas un bon résultat. Quand il fait une course dans l'est de la France, il fut deuxième, c'est pas bien. Donc il faudra surveiller lui son tempérament s'il a un bon de sortie. Donc je dirais voilà le combo Bardet-Martinez pour un bon classement général.
Bah écoute, on espère pour eux bien évidemment et puis c'est vrai que ça sera assez ouvert, c'est toujours sympa effectivement ce tour de Romandie à suivre. Voilà mon cher Charlie, alors est-ce que on éteint les merguez là ou est-ce que t'as un dernier truc à ajouter, alors un petit thème merguez à relancer ou
voilà. Ah, j'en ai un. J'ai un thème merguez qui n'a rien à voir avec le cyclisme sur route, a priori.
Ouais.
Mais un ancien champion qui est Alejandro Valverde.
Ouais.
Vous regardez, tapez Alejandro Valverde Gravel et vous allez le voir, les bras levés. Il a remporté sa première course en gravel qualificative pour les championnats du monde. Donc, il a arrêté sa carrière, mais il continue chez Movistar dans l'équipe Gravel. Et il a remporté une épreuve ces derniers jours. Donc,
Hey.
Ça, on se dit, la carrière est finie. Non, il a trouvé de nouveaux objectifs. Et bon, il faudra le surveiller.
Rappelle-moi, mon Charlie, ce que c'est que le gravel?
Le gravel, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir un vélo assez proche d'un vélo de route. C'est le même type de cadre, sauf que vous avez des sections de roues qui sont beaucoup plus larges, hein, même encore plus larges que Paris-Roubaix, par exemple. Et vous avez des courses qui font une centaine de kilomètres avec des classements par âge, un peu comme en course à pied quelque part. Et vous avez moins de pelotons, donc c'est un peu plus chacun pour soi. Et ça montre la force physique, quoi. Donc on trouve des coureurs, on trouve des pros, on trouve des coureurs de VTT, on trouve d'anciens pros qui s'alignent sur des épreuves. Donc si on regarde le championnat du monde 2022, vous allez retrouver des noms que vous avez connus par le passé sur le vélo, des Vinokourov qui reviennent, qui font ce type d'épreuve. Voilà, très sympa dans la nature généralement. C'est à la frontière entre le on va dire un peu les Strade Bianche en plus quoi, au niveau en termes de difficulté.
Ah ouais,
Donc
d'accord.
Alejandro Valverde toujours là.
Ah bah ouais, allez voir sur internet. Et tu dis, il a remporté la première étape de quoi?
Il a remporté une course qualificative
Une course.
pour les championnats du monde dans son pays,
Ah
en
ouais.
Espagne.
Ah ouais. Ah donc il va faire les championnats du monde.
Donc il a fait les championnats du monde et là en passé,
Génial.
me semble-t-il, des routiers étaient venus et me semble Van der Poel a déjà participé, déjà monté sur le podium
Ah ouais.
d'un championnat du monde de gravel. Et bon voilà, ça
Excellent.
permet d'avoir pas mal de participants aussi dans le cyclisme, on va dire un peu amateur en fait, qui cherchent des vélos, etc. Donc ça, il y a un marché du gravel, vélo confortable, pour faire des courses comme Paris-Roubaix, voilà, amateur, voilà, on peut partir avec un vélo de gravel, c'est confortable. Voilà, il y a des compétitions UCI et donc maintenant il y a un championnat du monde UCI.
Ah ouais.
Donc ce sera à surveiller en tout cas, voilà.
Bah oui, mais en tout cas, aller voir les belles images d'aller retrouver Valverde, ça fait plaisir. Pas tout à fait à la retraite, aller rendre encore. Il monte sur le gravel. Bon bah écoute, un grand merci mon Charlie. Encore un barbecue à deux, mais un barbecue heureux. Hein, c'est la formule maintenant.
Exactement, en attendant nos futurs comparses bientôt, on espère.
Tout à fait. Et dès la semaine prochaine, ils seront avec nous la semaine prochaine. Et une recrue, une super recrue sera avec Johnny Cruz qui nous a rejoint, qui a rejoint l'équipe de Barbecue Vélo, qui sera autour de la table normalement la semaine prochaine. Johnny qui a d'ailleurs enregistré déjà des podcasts, des hors-séries. Alors je me risquerai pas, je l'attendrai la semaine prochaine pour le nom ne m'échappe, pour qu'il nous redonne ses fabuleux podcasts sur le débrief du Tour de France 2003. Un récap complet sur le Tour de France 2003, très intéressant. Johnny donc, et puis je crois qu'il a fait aussi des chroniques sur le cyclisme, donc sur l'histoire du Tour. C'est vraiment super super intéressant. Sur l'histoire du vélo. Bon, il sera avec nous prochainement pour en parler, puis retour bien sûr de ce cher Tom, ce cher Thierry Ladan. Voilà, mon cher Charlie, merci à toi encore.
Bah merci à toi.
Et puis la semaine prochaine pour débrief du Tour de Romandie. Et puis le Giro s'approche, Charlie, là. Attention, hein, n'empêche.
Eh oui, c'est le mois de mai.
Eh oui, mais oui. On fait monter la température, on fait monter les merguez. Voilà, on va retrouver Remco en pleine forme. Face après Mozro Glitch. Merci beaucoup, mon Charlie. Et puis à très très vite pour de nouvelles aventures vélo. Et évidemment, encore, encore, encore des barbecues. Ciao, ciao!